When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Twitter n'est plus, il faut désormais parler de X. On parle aussi un petit peu encore de Threads, on parle d'un record qui a battu Facebook, le réseau social, on parle de la Pixel War édition 2023, de modèles de langage et de plein d'autres sujets. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le Rendez-vous Tech, le podcast où on vous parle de technologie, d'internet, de gadgets. Nous sommes en août 2023 et c'est l'épisode 524 et vous avez bien évidemment compris que ce n'était pas Patrick Béja qui vous parlait. Vous avez dû le reconnaître dès mes premiers mots, c'est Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste. Je suis là pour remplir le challenge d'avoir un Rendez-vous Tech qui vous soit disponible, y compris cet été. On a en plus la possibilité de parler d'un changement de nom de Twitter en X, qui n'est pas un sujet incroyable, mais qui laisse place à plein d'autres opportunités de discussion. Et puis bon, il y a plein de choses qui se passent dans l'actu tech sur lesquelles on va pouvoir s'actualiser. Et puis, pour remplir cette mission... Pour Patrick, j'ai fait appel à une personne de haute qualité qui permet d'avoir la certification de l'information juste en matière d'infotech qui vous a apporté cet été. C'est Nicolas Lelouch qui est le responsable de la section tech chez Numérama. Salut Nicolas.
Salut Guillaume, haute qualité, c'est trop gentil, merci.
Tu vois, c'est en opposition parce que moi j'ai toujours en tête l'image quand on était petit des émissions à la télé, je sais pas si t'as connu ça, où t'avais ton animateur phare qui était parti en vacances. Et puis, il y avait soit des émissions un peu, tu vois, annexes ou un présentateur un peu moins connu. Voilà, des best-of. Tu sais, c'est les émissions qui ont un peu moins de saveur. Alors, j'espère que je ne retranscris pas ça. Et donc, j'avais besoin de quelqu'un qui puisse contrebalancer ça pour les auditeurs du Rendez-vous Tech.
Ça va être très bien avec toi aussi. J'en ai aucun doute.
Écoute, on va parler ensemble des sujets qui n'ont pas été abordés dans le podcast durant ces dernières semaines parce qu'il y avait des épisodes spéciaux. On espère que vous avez évidemment apprécié les épisodes spéciaux que vous avez concoctés, Patrick. Mais donc, on a des petites choses dont on va pouvoir vous parler. Comme je vous le disais, Twitter qui a changé de nom. On va s'actualiser un petit peu sur Threads. Je sais que c'est Jérôme Kainborg qui vous en avait un petit peu parlé aussi. On a le combat de pixels sur Reddit qui a eu lieu cette année. Évidemment, il a une saveur un petit peu particulière. On a des infos sur les intelligences artificielles, sur du réglementaire. Bref, on va pas s'ennuyer. Nicolas, je te propose qu'on se lance tout de suite. On va commencer à parler de ce sujet qui, comme je le disais, en fait, c'est un sujet un petit peu anecdotique quand on y pense. C'est simplement le changement de nom d'un réseau social. Mais quel réseau social? C'est Twitter. On va pas refaire l'histoire du rachat de Twitter par Elon Musk parce que il y a tout un historique de podcast que vous pouvez écouter qui vous l'expliquera bien mieux et c'est vraiment pas l'objet de cet épisode. Mais effectivement, peut-être qu'une partie d'entre vous a été surpris de ne plus retrouver l'icône avec l'oiseau bleu sur son smartphone avec le réseau social, et ça a changé de nom. Ça a changé de nom pour X et ça a changé y compris de nom. Alors évidemment, visuellement, c'est plus le petit oiseau bleu. C'était pas le cas, mais là j'ai l'impression que c'est passé sur iOS, y compris le nom de l'application qui est désormais bel et bien X. Donc ça, c'est bien passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Elon Musk veut faire de Twitter cette super app X, qui est fidèle un petit peu à ses projets et à ses lubies depuis très longtemps maintenant. On pourra peut-être revenir un tout petit peu dessus ensemble. Allez, premier mot peut-être, Nicolas, comment ça s'est passé toi de ton côté, ce changement de nom? On va pouvoir entrer dans les détails après, mais comment t'as constaté tout ça?
C'est étonnant comme changement de nom en fait, parce que d'un côté, si on suit l'actualité d'Elon Musk, on savait que ça risquait d'arriver un jour parce qu'il en parle absolument à chaque fois qu'il en a l'occasion depuis un an et demi, voire plus. Il a ce rêve de fabriquer X, de Everything App, comme il l'appelle, donc l'application qui fait tout. Et il a toujours dit que racheter Twitter, pour lui, c'est un moyen d'accélérer la création de X. Donc d'une certaine certaine manière, il y avait toutes les raisons du monde d'imaginer qu'un jour, Twitter allait devenir X. Maintenant, ce que personne n'avait imaginé, c'est la manière avec laquelle il allait faire tout ça. Et là, en fait, tu l'as vu comme moi, hein, Guillaume, hein, le 23 juillet, on ne sait pas pourquoi, sur un coup de tête, il a commencé à tweeter que finalement, le nom Twitter allait devoir mourir, que l'oiseau, il servait plus à rien, qu'il fallait un petit peu repenser tout le réseau social et qu'il allait s'appeler X. Personne n'y croyait. On se dit, ouais, il est encore en train de nous faire un petit délire et il va rien avoir derrière. Et finalement, quelques heures après, ça a vraiment changé de nom. Il a dégagé l'oiseau du site. Il a renommé ça X. Ce qui est marrant, c'est que si on va sur x.com/about, donc le à propos du site, il y a encore écrit Twitter partout parce qu'ils ont absolument pas vraiment fait la transition. Mais on dirait que le changement de nom a eu lieu sur un coup de tête. Elon Musk s'est dit, allez, aujourd'hui, j'ai envie de le faire. Et il l'a fait.
Et ce serait tout à fait crédible d'imaginer que c'est un coup de tête.
Tout à fait. Je pense que tout est sur un coup de tête. Il y a pas beaucoup de doutes sur la manière dont ça s'est fait. Le projet, il existe vraiment dans sa tête. C'est tout le paradoxe de ce truc, c'est que d'un côté, on a l'impression qu'il a improvisé le changement de nom, et de l'autre, les gens qui le côtoient disent qu'il a ce mot X, enfin cette lettre X dans la bouche absolument en permanence. Il passe son temps à dire qu'il veut fabriquer X, que X est le futur, que X est la future plus grande marque du monde. Donc lui croit vraiment en ce projet. Mais la manière dont il l'a fait, clairement, ça ressemble à une improvisation totale. Il s'est dit qu'il avait envie de changer tout ça, qu'il voulait aller vite, et que comme c'est quelqu'un qui va vite et qui dirige tout à l'instinct, il a tout fait très rapidement.
Et ce qui est rigolo, comme je disais, c'est évidemment de s'attarder un petit peu à tout ce qui tourne autour de ce changement de nom. Alors d'abord, on a des analyses de la valeur de l'entreprise après ce changement de nom, parce que bien évidemment, Twitter, au-delà d'être un service technologique et un parc d'utilisateurs, c'est une marque et des spécialistes de valeur de marque estiment que la marque Twitter valait entre 4 et 20 milliards de dollars. Donc potentiellement, Elon Musk a amputé son entreprise de 4 à 20 milliards de valeur de marque. Entendons-nous bien, hein, c'est une valeur estimée à la hauteur de la marque, et c'est pas une valeur des actifs réels de l'entreprise, ou en tout cas c'est très difficile de le comparer avec d'autres types de valeurs d'une entreprise, mais en tout cas la marque s'est effondrée. C'est vrai que quand on y pense, par exemple un Coca-Cola et un Pepsi. Alors, je sais que je vais pas me faire des amis et il y a probablement des personnes qui vont me contredire, mais le goût des boissons est assez différent. Mais il y a aussi toute la valeur de la marque, et Coca-Cola se renommerait aujourd'hui, je pense que on tomberait de très très haut.
Bon. Évidemment, tu es une marque. Enfin, s'il y a bien un truc sur lequel tout le monde doit être d'accord, on peut être pour X contre X, pour Elon Musk contre Elon Musk, peu importe. Le changement d'un point de vue économique sur la valeur de la marque, il a aucun sens. Il a détruit une marque qui a passé des années à être créé, qui est connu par tout le monde. Tout le monde sait ce qu'est un tweet, même des gens qui ne sont jamais allés sur Twitter savent que le président de la République a tweeté. On a tous parlé des tweets de Donald Trump pendant des années. Et là, en fait, il détruit un vocabulaire qui était présent dans le monde entier et pas que dans l'univers tech, complètement sur un coup de tête. Donc, je te rejoins quand tu dis que la valeur de Twitter était une vraie pièce maîtresse pour le réseau social, parce que là, en tuant cette marque, il repart un petit peu à zéro en termes d'identité.
Et ce qui est dingue, c'est que en rachetant Twitter au prix qu'il l'a racheté, on aurait pu se dire c'est aussi pour la marque Twitter sur laquelle il veut capitaliser, pour tout ce que tu viens de décrire, parce que c'est installé dans les conversations, dans les médias, mettre en avant un tweet à la télé, évidemment ça a une certaine valeur. Bon, on peut imaginer que ça va le remplacer. Autre chose qu'on peut souligner, c'est le fait que il y a cette évidemment lubie de sa part, comme tu l'évoquais rapidement tout à l'heure. Il a toujours voulu ce grand projet. Dès les premières fondations de l'ancêtre de PayPal auquel il a participé, c'était déjà X.com. Donc on sent qu'il y a cette envie. Il y a évidemment SpaceX, c'est difficile de pas le citer. Il y a son enfant aussi qui s'appellerait X, je sais pas trop quoi. Donc on sent en tout cas qu'il y a une vraie lubie, et ça fait un petit peu peur de s'imaginer que c'est simplement la passion et une espèce de vision comme ça de ce qu'on perçoit quand on est une personne comme Elon Musk qui dicte autant de décisions d'entreprise. On n'apprend pas grand chose quand je dis ça,
c'est qu'en même temps, oui, ça fait un petit peu peur, mais de l'autre, il faut être aveugle pour pas avoir compris qu'Elon Musk était quelqu'un qui dirigeait complètement les choses en fonction de son instinct et en fonction de ses propres envies. Donc, c'est complètement en train d'illustrer sa manière de penser. Il adore cette lettre, il a envie de mettre cette lettre partout, et il a envie de détruire Twitter pour mettre X. Il l'a fait parce qu'il a la possibilité de le faire, mais c'est clair que ça pose pas mal de questions sur le pouvoir qu'il a.
Parmi les histoires annexes qu'on peut citer, il y a évidemment l'origine de cette marque, de ce logo X qui est ressorti et qui serait a priori un caractère d'une police, un des caractères d'une police. Mais bon, enfin, on pourrait rentrer dans toutes les logiques de la marque comme c'est à chaque fois le cas dans les changements de marque. En plus, là, en l'occurrence, c'est un changement de marque qui se veut temporaire. Il l'a bien annoncé, hein, c'est quelque part un logo intérimaire, donc ça pourrait changer à l'avenir. On pourrait parler aussi de l'utilisateur qui avait le handle, le nom Twitter X, mais évidemment qui se l'est fait piquer, qui l'a pris par mail. On pourrait ironiser sur le fait qu'il y a un compte qui s'appelle Twitter Movies, qui parle de cinéma, c'est un compte officiel de Twitter, qui évidemment n'a pas été renommé, je vous laisse imaginer pourquoi. Et puis Elon Musk, il continue à faire les choses un petit peu billes en tête, sans forcément trop s'intéresser au contexte légal. Il agace un petit peu San Francisco en ayant fait installer, enfin en tout cas on peut lui imputer cette décision d'avoir installé sur le toit du siège de Twitter à San Francisco un X, donc à l'image du logo, hein, mais qui clignote. Et c'est vrai que je sais pas si c'est les vidéos qui retranscrivent ça, mais ça me paraît parfaitement insupportable. Moi j'habiterais dans l'entourage, je serais particulièrement énervé. Bon ouais. Voilà, je suis pas sûr qu'on puisse dire beaucoup d'autres choses sur ce changement de nom. On a encore quelques petites choses qu'on peut dire sur ce changement d'identité. Je sais pas s'il y avait des choses que tu voulais souligner ou qui te paraissaient suffisamment cocasse pour être partagé pour ce changement de marque.
Ce que je peux rajouter, c'est que là, on a beaucoup parlé du négatif et de tout ce que ça pouvait créer derrière sur l'image de marque, sur à quel point cette décision était incompréhensible pour beaucoup. Mais il y a aussi tout l'aspect de son projet qui est intéressant à développer derrière. Mm-hmm. Quand on parle d'une application qui va servir à tout faire, Elon Musk, il imagine que son nouveau X, ça sera pas juste un réseau social, ça sera aussi une application pour payer. Donc comment? Peut-être avec des QR codes. Il imagine peut-être qu'un jour, vous irez faire vos courses et en fait, vous donneriez votre QR code X pour payer plutôt qu'utiliser Apple Pay ou Google Pay. Il imagine qu'on va peut-être pouvoir faire des demandes officielles dans son application. Il imagine énormément de choses. Il y a aussi pendant longtemps eu des rumeurs avec lui, enfin c'était des projets, c'est-à-dire que les propriétaires de Tesla allaient pouvoir laisser leur Tesla en location pour les autres personnes quand ils l'utilisent pas. Et ben en fait une application comme X, elle aurait énormément de sens s'il veut vraiment lancer ce service. Ça permettrait en fait de réunir tout ce qu'il fait déjà dans une seule application. Donc le potentiel de X, même s'il a jamais dit à quoi ça servirait exactement, il est concret. On peut imaginer qu'Elon Musk essaye de devenir un géant des services comme les Google, comme les Meta aujourd'hui, parce que c'est pas un domaine sur lequel il s'est positionné et que racheter Twitter dans ce sens-là pouvait l'aider. Maintenant, il va y avoir énormément de contraintes techniques et légales pour y arriver. J'imagine très mal Apple et Google accueillir avec beaucoup de joie une application concurrente à leurs propres écosystèmes. Donc, je sais pas trop comment Elon Musk peut y réussir, mais en tout cas, le projet X, c'est pas juste un changement de nom et je pense que ça serait en effet ne pas rendre service à la réalité et à l'information que de résumer ça à cette lettre.
Ouais, absolument. Je pense que c'est important de le souligner. Et d'ailleurs, si on réfléchit un petit peu à ce qui pourrait se passer, je pense qu'il n'y a pas 50 solutions. Hein. Soit c'est un bide total dans son projet.
Il y a des chances, hein, en
soit...
vrai.
Soit, ça paraît malheureusement être la probabilité la plus forte, en tout cas celle sur laquelle il y a le plus facile à parier. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, hein, admettons, un bouleversement parce que il peut aussi surprendre et qu'on n'est pas à l'abri dans l'environnement des nouvelles technologies de se rendre compte que les choses peuvent être aussi parfois bouleversé, l'histoire nous l'a montré. Ceci étant, c'est vrai que tu le dis, hein, y a un environnement qui est quand même très régulé et Elon Musk donne pas l'impression de pouvoir s'adapter à un environnement aussi régulé que l'est celui de la finance, par exemple. Si, encore une fois, il y a ce bagage autour de PayPal. Et oui, c'est vrai qu'il y a de la réglementation dans la conquête spatiale avec SpaceX, il y a de la réglementation dans la circulation avec des voitures pour Tesla, mais on n'est quand même pas sur les mêmes sujets et je suis pas sûr qu'il arrive dans un contexte qui soit très favorable avec les régulateurs. Et du coup, à l'image de ces deux possibilités qui sont à deux opposés d'un spectre des possibles, il y a évidemment les enthousiastes, on les voit sur le réseau social, évidemment sur X, mais aussi ailleurs, qui sont hyper enthousiastes et qui disent que ça va être énorme, et puis d'autres qui sont très très sceptiques. Faites-vous votre propre opinion, vous avez compris que Nicolas et moi, on était plutôt dans la team sceptique, mais on attend de voir quand même.
Tout à fait.
Autre chose d'ailleurs autour de Twitter, qu'on va essayer d'appeler X maintenant, moi j'ai un petit peu de mal à m'y mettre.
C'est pas facile.
C'est pas facile. C'est pas facile. On va essayer, on va se prêter à l'exercice. Donc il faut désormais parler de publication et de republication. Ça, c'est ce que tu tweetais tout à l'heure en relais à ce que tu as pu percevoir. Alors que jusque-là, on disait qu'on allait Xer. Je sais pas comment on aurait pu dire. Il est question aussi d'activer le mode sombre par défaut. Alors au-delà de cette petite anecdote qui est vraiment de l'ordre de l'interface et utilisateur et c'est assez anecdotique, juste c'est marrant de voir que cette envie de bouleverser son application et le service va jusque là. Il a annoncé il y a quelques jours, je sais plus quand exactement, désormais X ce sera uniquement en dark mode, il y aura pas de version claire parce que c'est mieux à tout point de vue. Et il y a eu évidemment une réaction assez négative de la part de la communauté qui a soutenu le fait que c'était quand même appréciable d'avoir le choix. Et ok, il est revenu en arrière, mais on a vu à quel point il avait une vision qui était très, j'allais dire caricaturale, mais très forte de son service. Et on sent bien que évidemment, il n'y a pas trop de place à la discussion. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est relayé. C'est une ancienne de Twitter qui s'occupait, je crois, de la monétisation de Twitter Blue qui raconte un petit peu comment c'est de bosser dans la même entreprise qu'Elon Musk sur ces sujets-là. Vous en avez fait un article sur Numérama. Et elle explique à quel point il est guidé par ses ressentis, quoi, quelque part. Je ne sais pas si tu voulais retoucher quelques mots.
Rapidement, ce qu'elle raconte, et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un récit assez parfait de ce qu'on peut imaginer d'Elon Musk aujourd'hui. Elle dit que c'est une personne qui est capable, quand on est seul face à lui, d'être très charmant, d'être intelligent, d'être posé, et qui en même temps est capable de complètement péter les plombs, pardonnez-moi l'expression, parce que il va faire un sondage sur Twitter pour demander leur avis aux gens, et que les gens vont pas dire la même chose que tous les autres employés de Twitter lui ont dit. Donc du coup, il va faire l'inverse de ce qu'on lui a conseillé. Et ce qu'elle dit, c'est que c'est très compliqué de travailler avec une personne comme lui, parce qu'il manque d'empathie vis-à-vis de ses employés, et surtout, il y a des gens qui sont payés à réaliser des études pour comment améliorer le réseau social, et lui, en fait, n'en a rien à faire des études. Il dirige uniquement selon ce qu'il pense être le mieux, selon son propre avis. Donc je pense que ça illustre assez bien les problèmes qu'on a eu chez Twitter ces derniers mois.
Et d'ailleurs, pour commencer à conclure sur ce sujet, c'est assez annexe parce qu'on parle pas de Twitter, mais de Tesla, qui est évidemment notre entreprise d'Elon Musk. Il y a un sondage, il y a une enquête qui a été diffusée, qui explique la raison de la revente des Tesla d'occasion. C'est-à-dire, ils se sont posé la question, pourquoi est-ce que les gens revendent leurs Tesla? Après tout, c'est vrai qu'ils sont tellement fans de leur voiture, on se demande pourquoi est-ce qu'ils peuvent les revendre. Et une des motivations les plus importantes, c'est Elon Musk. C'est parce que c'est une entreprise. Ils sont 20% à dire qu'ils revendent leur Model 3 parce qu'ils ont une voiture de l'entreprise qui est gérée par Elon Musk. Je comprends ce sentiment, mais ça montre à quel point c'est fort, quoi, et à quel point ça peut avoir des répercussions assez dingues. On peut conclure en disant que X commence désormais à rémunérer des créateurs de contenu, mais que les créateurs de contenu qui font l'objet de rémunérations sont un petit peu particuliers. C'est systématiquement, évidemment, des gros comptes Twitter, mais surtout des gros comptes Twitter plutôt d'affinité extrême droite. Il y a des masculinistes. Il y a quelques personnalités qui ont eu droit à des chèques très importants de la part de X. On parle de centaines de milliers de dollars, si je dis pas de bêtises, qui ont reçu jusqu'à 100 000 dollars pour avoir eu un compte sur la plateforme. Ce qui paraît complètement dingue quand on sait que les ressources financières du réseau social sont évidemment pas au beau fixe en ce moment. On imagine que ça doit être compliqué de justifier le fait d'avoir ces lignes budgétaires comptables qui sortent du réseau social. Et pour achever le panorama de ce réseau social, il y a Kanye West qui revient sur le réseau social. Il avait été banni, pourtant assez proche d'Elon Musk, suite à des propos antisémites qui n'avaient absolument pas pu être défendus. Et il est revenu, en fait, il était même revenu une première fois, et là, il revient une deuxième fois, après avoir été banni deux fois. Et cette fois-ci, il revient avec un compte, donc c'est Yi, son surnom, Y-E, et il revient, mais avec un compte X, qui est un compte en en version entreprise. Alors on sait pas à ce stade si c'est une bourde, si c'est qu'il est passé entre les mailles du filet, est-ce que c'est officiel et est-ce que c'est accepté par les dirigeants de X, mais en tout cas évidemment les propos rentrent pas dans les conditions d'utilisation du réseau social. Ça montre un petit peu le côté sulfureux de cette plateforme. Bon, en attendant, du coup, Nicolas, on met de côté X, mais du coup, c'est l'occasion rêvée de s'actualiser sur Threads. Et oui, quel été incroyable pour les réseaux sociaux de microblogging. Après l'arrivée donc du concurrent de Twitter par Meta, on vous devait un petit peu quelques éléments d'actualité sur Threads, dont vous avez entendu parler probablement dans les précédents épisodes du Rendez-vous Tech. Eh ben, il semblerait que la hype soit déjà en train de s'effondrer. On parle d'une perte de la moitié des utilisateurs sur Threads. Alors évidemment, le fait qu'ils soient bloqués pour une utilisation par des comptes Instagram européen, vous le savez, hein, on peut créer un compte Threads sur la base d'un compte Instagram, et en l'occurrence, bah, c'est tous les comptes Threads qui ont été bloqués s'ils étaient créés en Europe. Vraisemblablement, ça n'aide pas à l'explosion de Threads. Donc après un démarrage en fanfare avec 100 millions d'utilisateurs en quelques jours, il semblerait que ça retombe un petit peu. On va voir s'ils vont arriver à rebondir. Il y a évidemment de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver sur Threads. Il y a une interview d'Adam Mosseri qui a été partagée, dans laquelle il parle notamment d'une des prochaines fonctionnalités qui pourrait être mise en avant, qui serait les messages privés. Alors, est-ce qu'après WhatsApp, après Messenger, après les messages privés sur Instagram, il serait question d'avoir une nouvelle messagerie privée? Moi, je mise un petit billet sur le fait que ce serait les mêmes fonctionnements que sur Mastodon. Vous le savez, hein, c'est d'ailleurs le même protocole qui permet de faire fonctionner Mastodon et sur lequel est développé Threads. Et donc, les messages privés de Mastodon ne sont pas vraiment des messages privés, c'est des messages pour lesquels la mention du destinataire lui permet uniquement de les voir. Ce n'est pas vraiment une fonctionnalité de message privé comme on a l'habitude de le voir sur, bah, par exemple, Messenger pour un Facebook. Donc,
je mise plus sur une intégration de la messagerie Instagram. Vu que c'est lié à Insta, oui. comme tu l'as dit, je vois bien simplement permettre d'envoyer un message à quelqu'un sur Threads, en fait ça va directement dans sa messagerie Instagram, donc dans ce cas-là ça voudrait dire que la messagerie est dispo dans deux applications, mais après j'ai du mal à les imaginer lancer une vraie nouvelle messagerie, ils en ont déjà suffisamment, ça servirait pas à grand-chose de créer une messagerie à part dans l'application.
Ça générerait bien trop de complexité, j'imagine. Mais enfin bon, on peut être surpris. Et je suis pas sûr en plus que, par contre, le fait d'avoir une messagerie privée commune à Instagram et Threads serait de bon augure pour les régulateurs européens qui voient déjà pas très très bien Threads. Mais t'as raison, techniquement, c'est tout à fait envisageable. Et pour les États-Unis, ça pourrait tout à fait fonctionner. Et pour brancher sur ces réactions autour des microblogging, eh ben on a TikTok qui reste à l'affût et qui, après le partage de photos, de vidéos, ben maintenant permet de faire partager du texte. Alors c'est pas du texte comme on le voit sur Mastodon, sur X ou sur ce type de réseaux sociaux, mais c'est plus des formats un peu stories, ce qui est assez logique hein, par rapport au format de TikTok. À voir s'ils vont arriver à prendre leur place dans le partage de texte sur les réseaux sociaux. Tu y crois, toi, à une possibilité que TikTok tire son épingle du jeu de la guerre des réseaux sociaux en microblogging, là, sur le partage de texte?
Ils auraient tort de pas essayer. On voit bien que Mark Zuckerberg est le premier à s'être dit « Ah ouais, super occasion, faut y aller ». Le problème de TikTok est qu'ils sont connotés, et ils le sont de plus en plus avec les enquêtes qu'il y a sur eux aux États-Unis, en Europe, comme une application du gouvernement chinois. À tort ou à raison, parce que les liens ne sont pas aussi avérés que ce que certains peuvent faire croire. Donc, est-ce qu'on peut vraiment imaginer qu'on va switcher notre réseau social d'opinion préféré de Twitter à TikTok? Ça me paraît un peu compliqué en l'état. Après, c'est clair que si, par exemple, Meta arrive à récupérer les célébrités de Twitter et les faire publier sur Threads pour que ça aille en même temps en Stories, en même temps sur Facebook, eh bien, peut-être que ça va laisser du terrain à d'autres plateformes comme TikTok, et que TikTok pourrait aussi avoir des personnalités un peu connues qui partagent les informations sur leur actualité juste avec du texte dans une forme de flux. Mais bon, je pense qu'il y a vraiment cette image chinoise qui va leur poser problème.
Ouais, c'est certain. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin. Hein. On s'en rend de plus en plus compte, je pense, au fur et à mesure que le temps passe et qu'on voit cet affrontement qui a lieu quand on voit la transformation de Twitter en X, quand on voit Threads, etc. Il y a un besoin d'avoir une espèce de canal, pas le mot est pas approprié, mais j'allais dire officiel, en tout cas reconnu par tous, comme étant une plateforme de prise de parole instantanée et qui permet en plus d'être relayée dans les médias. Je pense que c'est une chambre d'opinion pour les politiques, pour les entrepreneurs, qui est hyper importante. Il y a un besoin aujourd'hui. Beaucoup disent que c'est vraiment la fondation Wikipédia qui aurait dû racheter Twitter. Je doute qu'ils auraient eu les ressources financières, mais j'aurais beaucoup, beaucoup aimé qu'une plateforme comme Twitter puisse être gérer de la même manière que l'est Wikipédia. Je ne sais pas si ça t'aurait semblé jouable, toi.
Non, mais... je suis d'accord avec toi. Je pense que la mission originale de Twitter était de servir l'information publique en permettant aux gens de s'exprimer, en permettant de fédérer des communautés. Et au début, ça, quand ça a pris, Twitter, c'était exceptionnel. Notamment, c'était la grande époque des séries télé diffusées en prime time aux États-Unis avec un épisode par semaine, avec les gens qui commentaient là-dessus. Et Twitter, en fait, est devenu hyper puissant là-dessus parce que pour la première fois, on avait des réactions en temps réel de téléspectateurs sur des émissions et ça a du sens en fait que Twitter serve l'information. Le problème c'est qu'aujourd'hui c'était déjà le cas avant mais encore plus aujourd'hui sous Musk, ça sépare la politique en deux camps, ça c'est extrêmement polarisé. Meta lui essaye de dire que eux veulent pas faire de politique, la réalité c'est que sur toutes leurs plateformes il y a toujours eu de la politique. Donc je vois pas pourquoi Fred n'en aurait pas. Donc je pense qu'il dit ça pour se protéger, mais que à terme si Fred se prend, tous les politiciens seront dessus. Donc j'ai quand même l'impression qu'on a ce problème-là avec ces réseaux, qu'ils sont possédés par des gens qui ont des intentions politiques et que un Wikipédia aurait été beaucoup plus souhaitable. Mais bon, avant qu'on y arrive.
Ils ont déjà du mal à faire tourner la machine qui fait tourner Wikipédia, donc bon, ce serait difficile de complexifier encore les choses. J'avais prévu qu'on en parle un petit peu plus loin, mais du coup je le remonte. Tu parlais de TikTok et de la manière dont il était perçu par les gouvernements. Justement, il y a un ultimatum qui est tombé au tout début de ce mois de juillet. Ils ont 6 mois pour se mettre en conformité en France avant d'être suspendus. C'est ce qu'a annoncé le Sénat. Ils pourraient demander la suspension de l'application en France si jamais ils se mettent pas en conformité. Et c'est l'éternel sujet autour de TikTok. C'est que on leur reproche beaucoup de choses. Il y a évidemment un manque important de transparence, ne serait-ce que dans les réponses qu'ils apportent aux questions qui leur sont posées, autour de leur structure, autour évidemment des liens avec le gouvernement chinois. Mais ce qu'il leur est demandé me semble complètement insoluble. Je reprends ce que vous avez compilé là aussi sur Numérama pour ce qui est demandé par les sénateurs avant le 1er janvier 2024. Donc ils doivent clarifier leur capital, leur statut et les actionnaires de ByteDance, qui est la société mère, qui est basé dans les îles Caïmans d'un point de vue évidemment financier. Le détail sur le fonctionnement de l'algorithme TikTok, je me demande vraiment, est-ce qu'on peut décemment demander à une entreprise en se disant ouais ils vont le faire
magique.
De donner
ouais.
Ça me paraît dingue. Des informations sur la nature des données des utilisateurs transférées en Chine, ça me semble assez légitime et très basique par rapport au RGPD. Enfin bref, c'est des choses qui sont demandées qui me semblent complètement insolubles. Alors qu'est-ce que tu penses toi, Nicolas? Donne-nous un petit peu ce qu'a t'affiche ta boule de cristal. Est-ce que début 2024, on pourra pas envoyer bonne année sur TikTok parce que ce sera banni en France, ou est-ce que on peut plus raisonnablement se dire que ça va traîner très longtemps dans une situation assez inconfortable où TikTok ne pourra pas donner les réponses et la France pourra difficilement bannir. Ça devient difficile d'imaginer un bannissement de TikTok. Il y a des pays qui l'ont fait, mais c'est pas des pays qui ressemblent à la France. On parle de l'Inde notamment,
exact.
De l'Indonésie.
Exact. Je pense qu'en vrai, on est assez d'accord sur ce sujet. Dans ta question, j'entends la réponse. Il y a peu de chances, si je ne parle qu'avec ma boule de cristal, comme tu l'as dit. il y a peu de chances que TikTok soit seulement banni en France sur une décision française. Ça serait très mal vu. Ça serait source de nombreuses critiques. Et les revendications du gouvernement français, des autorités françaises, sont beaucoup plus basses que celles des États-Unis, par exemple, qui accusent TikTok d'être une entreprise à la solde du Parti communiste chinois. Moi, mon avis sur cette question, c'est le même depuis le début, c'est que c'est les États-Unis qui vont dicter à eux seuls le futur de TikTok, comme ils l'ont fait avec Huawei en 2019, je crois. Si les États-Unis arrive à bannir TikTok en l'interdisant complètement sur le territoire américain, par ricochet, on n'aura pas une application qui va être super populaire en Europe et en Asie, mais qui ne le sera pas aux États-Unis. Je pense que automatiquement, les autorités européennes vont suivre parce qu'elles vont se dire voilà, si les États-Unis l'ont fait, on peut pas laisser TikTok se concentrer sur nous et devenir un danger pour nous. Donc pour moi, TikTok ne sera pas banni en France tant qu'il est pas banni aux États-Unis. Je ne pense pas que la France sera le premier à faire ce move-là.
L'Europe. Pour prolonger ta question, est-ce que tu penses que l'Europe peut avoir un poids suffisant et prendre une décision à l'égard de TikTok? Bon, ce serait difficile parce qu'après il y a des mises en application au niveau des pays, mais
en fait ça dépend de ce qu'on leur demande. Les lois européennes aujourd'hui permettent de demander à une entreprise comme TikTok, si elle n'est pas en conformité avec le RGPD ou avec le futur DSA, de payer une large amende qui représente un certain pourcentage de son chiffre d'affaires, et en cas de multiples récidives, en effet, de pouvoir éventuellement être banni. Mais on en est loin. Et il faudrait déjà qu'il y ait une première condamnation pour qu'on puisse passer par la case récidive. Donc que TikTok soit sous le feu des projecteurs européens et que l'Europe s'en prenne énormément à TikTok et essaye de le faire fermer ou de le faire payer ou de le faire évoluer sur ses pratiques en Europe, sans doute. Ça va arriver. L'Union européenne est très forte en régulation des grandes entreprises tech, peut-être trop forte parfois d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Donc je pense que TikTok est amené à évoluer en Europe, peut-être à perdre en fonction. Instagram a perdu quelques fonctions en Europe pour rentrer en conformité avec nous. Mais je les vois pas. Je vois pas l'Union européenne dire voilà, chez nous à partir de maintenant, on bloque dans tous les pays européens l'accès à TikTok. Déjà la question, ça serait comment, parce que y a plein de disparités entre les pays européens. Donc comment on fait un blocage d'une application qui est installée sur des millions d'appareils. Par contre, les États-Unis, au vu du positionnement qu'ils ont pris et de leur passé avec des inscriptions sur liste noire de certaines entreprises chinoises, bah oui, je pense que les États-Unis sont capables de bloquer complètement TikTok et de provoquer pas mal de rebondissements en Europe. Mais bon, peut-être pas de suite.
En tout cas, j'en reviens à chaque fois à la même conclusion, hein, pour des influenceurs, plus généralement des professionnels qui utiliseraient ce type de plateforme pour leur activité. Je pense qu'on vit à une époque où il est hyper important de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et si vous avez un cœur d'activité sur TikTok, peut-être regardez aussi les autres plateformes. Je sais que c'est compliqué, hein, d'administrer plusieurs réseaux sociaux quand on est étroitement lié à ce type d'activité. Et c'est valable pour Instagram, hein. Si vous ne travaillez qu'avec Instagram, peut-être envisagez de vous diversifier au moins sur 2-3 plateformes. C'est pas toujours évident, mais bon, c'est un petit peu ma petite préconisation. Et puis, pendant qu'on parle de réseaux sociaux, ce serait dommage de ne pas parler de ce chiffre qui, moi, m'a un peu, j'avoue, surpris, hein. C'est le nombre d'utilisateurs sur Facebook. Donc, je parle pas de Meta, en gros, Facebook en tant qu'ancienne entreprise qui rassemblait plein de réseaux sociaux, mais je parle vraiment du réseau social Facebook qui rassemble plus de 3 milliards d'utilisateurs. Et qui continue à augmenter. Ils ont augmenté de 3%. Et évidemment, quand on regarde sur la population qui est disponible pour être rejoint sur Facebook, sous-entendu, quand on exclut par exemple des pays comme la Chine sur lesquels Facebook n'est pas accessible, bah, on se rend compte qu'ils ont une énorme part du nombre d'utilisateurs, d'internautes qui sont présents sur Facebook. Alors on les voyait enterrés, on les voyait définitivement dans le cimetière des services du passé. Bah, en fait, je suis très surpris de voir que non seulement ça continue, mais en plus ils augmentent un nombre d'utilisateurs. Alors après, évidemment, il faudrait rentrer dans les détails de à quel point ces utilisateurs utilisent beaucoup le service. C'est pas parce qu'ils se connectent une fois par mois qu'ils sont très 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 utilisateurs, mais enfin quand même, c'est un chiffre, moi, qui m'a assez surpris. Je sais pas si t'as été surpris, toi, Nicolas, de voir que c'est 3 milliards d'utilisateurs pour Facebook.
Ouais, comme toi, je trouve ça
impressionnant. Tu utilises Facebook, toi ?
J'utilise Facebook, quoi. Je suis pas partie des gens qui disent que c'est mort. Au contraire, j'ai du mal avec ça. J'ai quelques-uns de mes amis proches qui sont convaincus que Facebook c'est mort, que c'est un réseau social du passé, que plus personne y va. Et à chaque fois qu'on a ce débat, bah, je leur dis, bah, les gars, c'est pas vrai. Regardez les chiffres, quoi. Si on regarde les chiffres, Facebook c'est le réseau social le plus utilisé au monde. Et y a évidemment, le seul truc qui est vrai, c'est qu'il y a moins de jeunes qui l'utilisent. Les jeunes sont plus tournés vers Instagram, vers TikTok, vers Snapchat, vers YouTube que vers Facebook. Donc là-dessus, ça pose un problème sur le long terme. Et encore, j'ai envie de te dire que c'est un faux problème, parce que comme Instagram est souvent placé en numéro 2, la réalité, c'est que si les gens, si la population en vieillissant se tourne vers Instagram plutôt que Facebook, à la fin, c'est Instagram et c'est Meta qui a gagné. Donc ça change absolument rien pour eux. Mais c'est vrai que chez certaines populations, chez les gens un petit peu plus âgés, chez les grands-parents particulièrement, dans certains pays, Facebook, c'est le moyen principal de s'informer, c'est le moyen principal de discuter avec des gens, de fédérer des communautés, et c'est une plateforme immense. Moi, je l'utilise moins qu'avant. Je pense que je l'ouvre tous les jours. Je parcours vite fait, je tombe sur quelques articles. La plupart du temps, je regarde quelques commentaires et puis c'est tout. Je publie plus sur Facebook, par exemple, mais c'est quand même un réseau qui est ancré dans nos vies, et je crois que les nombre d'utilisateurs de Messenger sont comptabilisés là-dedans, et Messenger, pour le coup, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours. C'est sans doute l'application que j'utilise le plus en messagerie. Sans doute toi aussi, et sans doute beaucoup des personnes qui nous écoutent là. Donc, je suis à la fois impressionné par les chiffres de Facebook et à la fois pas surpris, parce que je pense que c'est pas une entreprise qu'il faut enterrer. Ils vont très bien.
Ouais, un réseau social qu'il faut continuer à surveiller. Et puis, ils sont pas à l'abri de se réinventer. Ils ont su se réinventer par le passé et se maintenir à flot. Ouais. Donc, je suis assez surpris, moi, de me faire avoir, je sais pas toi, mais dans le fil de Facebook, maintenant, il y a des réels qui apparaissent. Ouais. Et c'est assez souvent que j'arrive à me faire attraper par les réels. Alors, très, très vite, je me rends compte que je perds du temps, comme sur Facebook, comme sur, pardon, comme Instagram, sur TikTok. Mais ça marche, quoi. Et ils arrivent aussi à continuer à maintenir ce type de captation. En conservant des échanges avec des proches. Enfin, moi, je sais que j'ai des personnes avec qui j'échange sur Facebook. C'est des plus proches des amis, de la famille. Et ben, il y a pas d'équivalent, parce que des WhatsApp, par exemple, t'as que le texte. T'as pas cette même présence de la photo, de la vidéo. Donc, bon, écoute, on va pas les enterrer tout de suite. D'autres, par contre, peut-être qu'on va enterrer plus vite que prévu. Non, je pense pas. Mais quand même, c'est Reddit. On va pas refaire l'histoire de Reddit de ces dernières semaines. Là aussi, écoutez les précédents épisodes de podcast pour en savoir un petit peu plus. Mais pour faire un résumé très rapide, il y a eu des changements de tarification sur les accès aux API de Reddit, ce qui a suscité une énorme colère. Alors évidemment, de la part des applications tierces de Reddit, qui étaient historiquement très présentes, notamment parce que Reddit, pendant longtemps, n'a pas eu sa propre application. Et donc, c'était les applications tierces qui faisaient plutôt bien le boulot. Les applications mobiles. Et puis, il y a plein de subreddits qui ont fermé en protestation à ces changements-là. Et alors, le truc qu'on n'aurait pas imaginé possible, c'est qu'ils ont choisi chez Reddit de relancer en 2023 la guerre des pixels, là, le subreddit Place, où en gros, on se connecte pour aller déposer un pixel de couleur à un moment donné sur un gigantesque Canva qui est partagé par tous les utilisateurs de Reddit. Alors, ce qui est une expérience qu'on avait partagée à d'autres reprises dans les épisodes de podcast, c'est toujours sympa de relayer ça, parce qu'il y a à la fois l'initiative, bon, évidemment technique, la mise en avant de Reddit, mais c'est surtout quelque part culturel. On voit des affrontements de communautés avoir lieu, souvent avec bienveillance d'ailleurs, et ça c'est plutôt cool. Mais évidemment, ce qui devait arriver arriva, et ben ça a été aussi le support de protestation dans cette toile numérique contre Steve Hoffman, hein, le CEO de Reddit, auprès de qui il y a eu évidemment des insultes. Alors, je suis pas sûr d'avoir vu la toute dernière image, je suis pas certain en tout cas que ce que j'ai vu soit vraiment la toute dernière image, mais il y avait des fuck Space, qui est Space, c'est le pseudo du CEO, qui apparaissait un peu partout. Il y a eu quelques débordements un peu sulfureux, évidemment, comme on peut s'y attendre à chaque fois. Pas non plus des tonnes, mais il y a eu surtout des protestations. Qu'est-ce qui a pris à Reddit de valider ce projet-là? Je pense qu'ils se sont dit, on veut absolument être le plus cool possible, et peut-être qu'on va nous taxer de ne pas relancer ça compte tenu de l'environnement ambiant. Mais enfin, je sais pas, moi, jamais j'aurais relancé ce dispositif-là. J'imagine que t'as été surpris aussi.
Ouais, c'est un peu surprenant en pleine guerre. Déjà, première confirmation, l'image que t'as vue à la fin là, le fuck space géant, c'est vrai, hein. C'est-à-dire que les dernières minutes de la pixel war, les utilisateurs n'avaient plus le droit aux pixels de couleur, ils avaient juste le droit au noir et au blanc. Donc du coup, les gens, ils ont fait un fuck space géant en blanc. Et je trouve que c'est super drôle d'avoir eu cette idée. Donc ouais, en effet, ça a été une sacrée débâcle pour Reddit. Après. D'un certain côté, ça leur a permis de faire parler d'eux autrement. Ça a un petit peu apaisé. Au début, il y a eu énormément d'insultes. pendant, ça s'est un peu calmé. Et c'est vrai que sur la fin, il y a eu une grosse vague d'insultes. Les gens ont voulu terminer en beauté le truc, en montrant leur mécontentement. Clairement, c'était pas le bon moment pour relancer ça. Surtout que la dernière fois, ça avait vraiment bien marché, en France particulièrement, où les Français s'étaient super bien battus. Il y avait vraiment eu des jeux. Il y avait une rivalité avec les Espagnols qui avait abouti à une revanche avec un match de foot. Enfin, c'était vraiment très cool ce qui s'était fait autour de la Pixel War. Et là, ça salit un peu le truc. C'est que finalement, moi, tu me dis Pixel War, je ne garde pas l'image parfaite de « Ah ouais, c'était trop bien, c'était 4 jours de folie ». J'ai en tête le fait que c'est aussi une arme de Reddit pour apaiser la communication. Donc, je pense que c'est 30% réussi pour eux et 70% juste un échec parce qu'il ne s'est pas passé ce qu'ils voulaient et que malheureusement pour eux, les gens ont du mal à digérer ce qui s'est passé récemment.
J'allais sur le subreddit place de évidemment sur Reddit l'image qui est publiée n'est évidemment pas l'image finale qui est apparue. Ils ont sélectionné une image, je comprends que c'est une image qui est plutôt flatteuse et qui montre un affrontement des communautés qui est plutôt bienveillant.
Mais je crois qu'ils l'ont laissé, ils ont mis une timeline. Normalement tu dois pouvoir voir la fin
et l'historique.
Les gens justement avaient dit que ils appréciaient le fait que les modérateurs n'avait pas tenté de censurer ça. Et tu peux, j'essaye de le faire là, à un moment où t'as écrit View Canvas History, et si tu vas sur la fin, donc après la disparition des couleurs, tu peux arriver, alors là je suis à 128, non je suis à 120, alors tu vas à 127, 127 heures et 50 minutes, t'as bien un fuck space en géant.
C'est possible de l'avoir, ils
l'ont pas censuré, donc... Ça, c'est plutôt beau jeu. Maintenant, ça change rien au problème. Et peut-être que c'est un peu dommage de relancer une Pixel War aussi vite si ils n'avaient pas corrigé les problèmes qu'il y avait eu avec les gens, quoi.
Effectivement. Ouais, c'est vrai qu'on peut revoir tout l'historique. Ça en fait d'ailleurs un document probablement historique et sociétal assez intéressant à conserver.
Comme celui de l'année dernière. C'était génial de revoir l'histoire.
Absolument.
On voyait la guerre entre la France et l'Espagne. Moi, j'avais adoré. C'était vraiment très cool l'année dernière.
Ça fait partie de ces mouvements qui fédèrent en ligne, comme il n'y en a pas souvent non plus. Et c'est plutôt cool. On va mettre de côté nos réseaux sociaux parce qu'il y a un autre sujet dont il faut qu'on parle pour être sûr d'être actualisé sur l'info tech cet été, c'est l'intelligence artificielle. Alors je vais évidemment lister les différents sujets qui touchent à l'intelligence artificielle et puis je te laisserai le soin de réagir sur toute ou partie de ces éléments-là. Alors d'abord, il y a un modèle de langage qui vient de sortir, donc c'est la nouvelle version de Llama, donc c'est Llama 2, ça s'écrit 2LAMA et c'est le modèle de langage par Meta, qui est développé par Meta, qui est déjà sorti dans une version 1, mais qui n'était pas disponible pour tout le monde, qui avait fuité et qui avait fait l'objet d'ailleurs de plein de déclinaisons en petite version et avec des petits lamas qui arrivaient à obtenir quand même des super résultats et des belles performances. Et là, donc, il y a une toute nouvelle version de Llama qui sort, c'est la version 2, qui est officiellement gratuite et disponible en code ouvert, que ce soit pour une utilisation commerciale ou pour la recherche, enfin bref, pour toute utilisation possible. Donc, tout ça est mis à disposition par Meta. Et évidemment, on a un modèle de langage qui est, comme on pouvait s'y attendre avec Llama et avec Meta, assez performant. Il rivalise plutôt bien avec les autres modèles de langage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas un chat bot, enfin c'est pas un outil comme ChatGPT avec lequel vous pouvez interagir en ligne de commande sur un site internet avec des prompts. C'est vraiment le modèle, donc c'est l'équivalent d'un GPT-4, hein, par exemple, si je dois comparer la conception en tout cas plutôt que les performances. Et donc il est disponible. Il va être disponible aussi via Amazon Web Services, via Hugging Face, etc. Et truc qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, il est lancé en partenariat avec Microsoft. Alors, c'est peut-être là où il y a la plus grosse info, c'est qu'il y a une nouvelle version de Llama à la limite, très bien, qu'elle soit open source et gratuite, très bien. Mais ils le font en partenariat avec Microsoft. Et vous le savez, Microsoft, ils sont en partenariat très, très, très proche avec OpenAI et donc quelque part très concurrent de Meta sur la mise à disposition de modèles de langage. Donc, c'est assez rigolo de voir la tournure des choses. On sent que Microsoft, il bouffe à tous les râteliers, si tu m'oses cette expression, et qui veulent absolument tirer leur épingle du jeu, quel que soit le modèle de langage. Très bien. Un petit mot aussi pour parler de l'utilisation des intelligences artificielles par les entreprises. Il y a une enquête qui a été menée avec quelques chiffres qui sont intéressants, qui montrent qu'il y a encore aujourd'hui, alors qu'on parle un an après l'arrivée, pour moi c'est un petit peu marquant, mais l'arrivée de Midjourney pour tout le monde l'été 2022, où on voit que l'intelligence artificielle générative, elle a évidemment explosé durant ces derniers mois. On voit que les entreprises sont encore dans des situations assez ambivalente. Il y en a évidemment qui se jettent à corps perdu dedans, mais il y en a qui continuent simplement à tester, et c'est une majorité, hein. Ils testent à petites échelles. Ils pensent que ok, ils vont augmenter leurs investissements dans l'intelligence artificielle dans l'année à venir, mais à hauteur de 18%. Sinon, dans l'immense majorité des cas, ils comptent continuer à investir de la même manière dans l'intelligence artificielle. Donc on sent bien qu'ils n'ont pas identifié un potentiel massif qui leur ferait changer la donne comme on pouvait se l'imaginer dans les mois à venir, et donc ils vont pas changer leurs investissements. Ce qu'ils mettent en avant comme principale difficulté, c'est les incertitudes sur les cas d'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est la disponibilité des données, la qualité de l'intelligence artificielle de manière générale, les difficultés à trouver des retours sur investissement qui justifient les dépenses, mais surtout à plus d'un tiers, ils citent les manques de ressources, en tout cas le manque de personnel qualifié pour bosser sur l'intelligence artificielle, et ils sont d'ailleurs assez nombreux à indiquer, en tout cas ça rajoute à hauteur de 18%, un manque d'accompagnement de la part des grosses entreprises ou des grands décideurs pour investir dans l'intelligence artificielle. Donc on voit que c'est malgré tout assez timide. Ils voient quand même des cas d'utilisation dans la lutte contre la fraude, dans la sécurité, dans la gestion des interactions par message de type chatbot, etc., dans la génération de contenu. Donc on sent qu'il y a des cas d'usage qui sont identifiés, mais pas suffisamment pour bouleverser les investissements des entreprises. Je pense qu'il faut aussi mettre ça en regard d'un contexte économique qui est peut-être compliqué de manière générale pour les entreprises, mais on peut garder en tête que bah, il n'y a pas un investissement là un an après l'arrivée de Midjourney absolument dingue, contrairement à ce qu'on peut voir nous dans les cas d'usage des différents services. OpenAI abandonne son outil de détection de texte artificiel parce qu'il l'estime trop mauvais. Alors ça, c'est un peu un comble quand on est OpenAI qui propose GPT 3, 3, 5, 4 et ChatGPT de considérer le fait que l'outil de détection des textes artificiels est trop mauvais et qu'il faut le retirer. Et en même temps, c'est normal parce qu'il serait particulièrement bon, et ben ça voudrait dire que on pourrait améliorer encore la génération de contenu et de texte. Donc quelque part c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, et c'est compréhensible qu'au bout d'un moment on puisse pas avancer sur les deux piliers en même temps. Apple qui bosse sur son propre ChatGPT, donc peut-être que demain on aura de l'intelligence type ChatGPT dans Siri, mais il y a un affrontement a priori chez Apple de la part des dirigeants, et il y a vraiment deux visions qui s'affrontent sur le sujet. Une vision qui est plus conservatrice et qui vise à plutôt observer ce qui se passe dans le marché de l'intelligence artificielle et de voir comment est-ce que à l'avenir ça pourrait arriver, et puis d'autres qui seraient peut-être un petit peu plus en train de pousser pour déployer de l'intelligence artificielle dans les prochaines versions d'iOS, de macOS, etc. Et puis, une alliance de géants américains de l'intelligence artificielle pour s'auto-réguler. Hein, vous savez, hein, c'est la fameuse doctrine régulez-moi, mais à ma manière. Alors, ils se sont mis d'accord avec l'administration de Joe Biden pour dire oui, il faut qu'on avance sur ce sujet. Et il y a plusieurs entreprises qui bossent dans le domaine de l'intelligence artificielle, que vous connaissez bien, Microsoft, Google, OpenAI, et même la startup Anthropic, qui fondent un collectif, le Frontier Model Forum, où en gros ils vont mettre en place un certain nombre d'engagements. On sait hein, qu'ils veulent bosser sur la transparence des contenus qui sont générés avec leur technologie. On verra si ça va aboutir. Est-ce qu'il y a une partie de ces sujets, Nicolas, sur lesquels tu veux réagir, ou peut-être des choses qui te sembleraient bien plus importantes que ma petite sélection intelligence artificielle de l'été?
Non, je la trouve très bien ta sélection. Ce qu'on voit. Et tu illustres bien, en parlant d'Apple à la fin, c'est que finalement, il n'y a aucun géant de la tech qui ne sont pas concernés par ce sujet. Et c'est rare, parce qu'il y a quand même toujours eu des innovations chez une marque qui font beaucoup parler, qui ne sont pas repris par les autres avant plusieurs années. Et là, on dirait vraiment qu'il y a un consensus pour dire que c'est important ce qui est en train de se passer, et que comme toute révolution importante, il faut que tout le monde soit positionné là-dessus. Moi, je suis très curieux de voir comment ça va évoluer, parce que j'ai quand même l'impression, je le sens un peu dans les audiences de Numérama sur le sujet, que l'IA intéressait beaucoup en début d'année. Quand je te dis beaucoup, c'est que c'était vraiment devenu un des sujets les plus lus sur le site et c'était quelque chose qui inquiétait autant qu'il fascinait. Et que là, aujourd'hui, on est de retour sur une audience de gens qui adorent la nouvelle technologie, qui adorent l'IA en général, mais qui l'aimaient déjà avant, mais que le grand public s'intéresse moins. Donc, comment on va faire maintenant quand on est Apple, Google, Microsoft pour capter l'intérêt des gens? C'est vraiment la question que je me pose parce que je ne pense pas que ce soit forcément gagné d'avance et il va falloir vraiment intégrer ça à des fonctions vraiment pratiques pour que ça devienne normal.
Ouais, ça ressemble vraiment, encore une fois, à cette courbe de la hype dont on parle assez régulièrement, où il y a une explosion, un enthousiasme de dingue sur des nouvelles technologies. Ça s'effondre assez vite derrière et après, il y a une consolidation. J'ai l'impression qu'on est presque... Allez, toute proportion gardée, hein, dans un peut-être un peu d'effondrement sur l'aspect hype. Ouais. Je parle pas de la technologie, hein, ça avance évidemment beaucoup. On l'a illustré avec les autres infos et c'est pas discutable. Mais c'est juste l'intérêt porté par à la fois les utilisateurs et les entreprises. Ben on sent que c'est peut-être un petit peu plus tiède. On verra si à la rentrée ça repart de plus belle. Pour terminer les infos phares, je voulais parler un petit peu, Nicolas, de ce qui pourrait définitivement enterrer le web tel qu'on l'envisageait jusque-là et tel qu'on avait l'habitude de le voir. Est-ce que tu as entendu parler du Web Environment Integrity, la proposition de Google qui s'appelle comme ça pour Chrome? Est-ce que tu en as entendu parler?
Alors, j'ai vu passer quelques titres, mais je t'avoue que tu vas m'apprendre pas mal là-dessus parce que je ne suis pas rentré dans le sujet.
Je me réjouis parce que je suis moi-même tombé en préparant cet épisode du Rendez-vous Tech sur ce sujet par souci d'exhaustivité et j'ai été assez marqué. Effectivement, il y a une sonnette d'alarme qui est tirée au sujet d'une nouvelle fonctionnalité qui est proposée et poussée par Google dans le développement de Chrome, en tout cas en l'occurrence dans le socle de Chrome, donc le socle technologique qui permet de développer le navigateur Chrome, mais pas que, il y a plein d'autres navigateurs qui fonctionnent avec cette même technologie. L'idée, c'est d'arriver à faire en sorte de s'assurer, quand tu es un site internet, que ton utilisateur est un vrai bon utilisateur qui a été certifié par un tiers de confiance. Évidemment, tiers de confiance, ce tiers de confiance n'est pas forcément bien identifié pour l'instant, mais tout le monde entreaperçoit entre les lignes de la proposition de Google que ça pourrait être évidemment Google qui pourrait jouer ce rôle de tiers de confiance. L'idée, c'est de vérifier que tout à la fois ton environnement matériel et logiciel est bien en adéquation avec les usages qui sont attendus pour être de confiance, un environnement de confiance. Et donc, évidemment, on peut après imaginer toutes les dérives qu'il peut y avoir derrière. On peut très très vite comprendre l'intérêt qu'il peut y avoir sur ce type de fonctionnalité quand, par exemple, on veut s'assurer que la publicité sur le site web que tu diffuses, elle est bien vue par des humains, qu'il n'y ait pas de dérive. Ou quand tu fournis un jeu en ligne, t'assurer que les joueurs n'utilisent pas de logiciels de triche, par exemple, qui pourraient biaiser les fonctionnements. Mais, problème, c'est évidemment le biais qui peut arriver derrière à... et évidemment, oui, je passe dessus, mais ça paraît évident sur les aspects de sécurité. Imagine que tu es une banque en ligne, tu as tout intérêt à t'assurer que ton utilisateur, c'est pas un truc mal intentionné, mal foutu. Et si tu as un tiers de confiance qui te certifie quelque part que ça correspond bien au profil d'un internaute, je pense que tu écartes une bonne quantité des problèmes. Évidemment, ça pose problème parce que ça ressemble carrément à des DRM, ça ressemble carrément à une gestion des droits d'accès au site internet qui pourrait énormément poser problème. Et évidemment, comme Chrome est un navigateur qui a énormément de place dans la proportion des consultations sur internet, eh ben, on peut s'imaginer que ça pourrait influencer trop fortement les consultations sur Internet. Et il y a une partie des personnes qui sont en affinité avec le développement des navigateurs qui tirent la sonnette d'alarme. En gros, demain, tu pourrais t'imaginer que parce que t'as installé un ad blocker sur ton navigateur, au lieu d'aller sur numerama.com par exemple, au lieu d'avoir ta page web, tu pourras avoir vous ne pouvez pas accéder à ce site web parce que le navigateur que vous utilisez a été modifié. Évidemment, c'est l'éternel jeu du chat de la souris des ad blocks qui peuvent aussi évoluer, mais on entreaperçoit une tendance qui fait énormément peur, et les personnes qui s'expriment sur cette proposition, à ce stade ce n'est qu'une proposition, hein, c'est pas une implémentation qui a été validée, sont extrêmement inquiètes et disent qu'on devrait beaucoup plus être alerté sur ce fonctionnement qui est proposé par Google. À noter, c'est un fonctionnement qui est déjà en place, alors notamment par il y a un équivalent en tout cas avec Safari par Apple pour des raisons de sécurité. Ceci étant, Safari n'est pas du tout dans un poids d'utilisation telle que Chrome, donc ça pose beaucoup moins problème. C'est aussi une fonctionnalité qui est disponible avec certaines API qui exploitent les Google Play Services et l'App Store d'iOS. Donc aujourd'hui, évidemment, pour des applications, il y a une espèce d'authentification qui est faite de la même manière. Mais là, ça pose problème, le fait d'avoir Google qui propose ça dans le développement de Chrome. Alors évidemment, il y a Mozilla qui est derrière Firefox et qui s'insurge évidemment et qui a commenté cette proposition en disant qu'évidemment c'était extrêmement problématique. Il y a d'autres acteurs du web qui abordent le sujet. Ce qui est un peu compliqué, c'est évidemment d'avoir Google qui est tout à la fois juge partie, qui gère une bonne partie de la publicité en ligne, qui se retrouve impliqué dans ce sujet-là. Ça, c'est une notion qui n'est pas nouvelle, mais c'est cette mise en application qui fait peur à beaucoup. Je sais pas si ça te, si ça,
non,
si ça
laisse place à la réaction que t'as pensé. Je trouve ça assez passionnant comme sujet. C'est vrai que je suis un peu tombé, je suis passé à côté du truc, et c'est pas la première fois que Google essaye de réécrire le web à sa manière. On l'a vu avec la disparition annoncée des cookies, que finalement tout ça est un nouveau moyen pour eux d'essayer de traquer les utilisateurs différemment, mais de manière à ne pas pouvoir être bloqué par des solutions tierces. Donc je pense en effet qu'il y a un vrai sujet là-dessus, que Google Chrome est beaucoup trop puissant, que Google est beaucoup trop puissant, et qu'il faut pas qu'ils utilisent cette puissance pour favoriser leur propre écosystème, mais qu'ils le fassent de manière un peu plus intelligente. Donc je suis très curieux de voir comment ça va évoluer, et je serais en même temps très surpris que tout ça rentre en place comme ça, sans qu'il y ait de la résistance et sans que Google soit obligé de corriger un peu le projet. En tout cas, j'espère.
Ouais, c'est marrant de voir que toutes les personnes qui partagent ce sujet sur les réseaux sociaux parlent de propositions, mais tu sais, ils mettent des guillemets, des propositions
ouais,
de la part de Google. Donc à voir comment
l'idée.
Ça s'appliquera. On peut peut-être clôturer avec quelques sujets très rapides. Tu es libre de réagir si tu veux, Nicolas, à ces différents sujets. Meta, Microsoft et Amazon sont dans une nouvelle alliance. C'est un projet open source de cartographie. Alors non, n'allez pas imaginer que c'est un concurrent à Google Maps ou à Apple Plan. C'est quelque part une collection d'informations que vous pouvez télécharger parce qu'elles sont mises à disposition en format open source, avec des conditions, hein, bien évidemment, mais elles sont mises à disposition, et le but, c'est quand même de concurrencer les services de type Google Maps et Apple Plan, mais avec une mise à disposition des contenus qui est un petit peu différente. Ça s'appelle Overture, et y a un site web qui a été mis à disposition avec toutes les informations que vous pouvez retrouver. Donc si vous bossez dans la cartographie, ça peut être un sujet intéressant. Il y a des informations sur les dimensions des bâtiments, sur les emplacements des voies de circulation, etc., etc. Ça peut être assez cool. On peut citer quelques sujets légaux très rapides. Il y a une commission, il y a une enquête parlementaire qui a eu lieu, qui a livré son rapport au sujet des Uber Files, dont on avait parlé il y a de ça plus d'un an, je crois maintenant, qui confirme que Emmanuel Macron, le président de la République en France, a favorisé Uber, que ce soit avant, mais même après son élection quelque part. En tout cas, après son élection, il y a eu des conséquences à certaines interactions entre la société Uber et Emmanuel Macron. Donc bon, il y a tous les détails qui sont disponibles dans les articles qui traitent du sujet. La Commission européenne est obligée de constater le désistement de Fiona Scott-Morton au poste de chef de la concurrence. C'était anciennement une consultante chez Apple et Amazon. Et effectivement, ça avait été vu comme étant un poste petit peu bizarre et peut-être pas le plus adapté pour ce rôle-là. C'est elle-même qui a au final décliné, je crois, le poste. Toujours dans la partie réglementation, à partir de 2027, c'est le design des consoles portables qui sera réglementé officiellement par l'Union européenne. Donc peut-être qu'il va falloir vraiment faire en sorte que la Switch puisse avoir sa batterie qui soit facilement changée. Je crois que c'est le Steam Deck aussi. Bon, ça devrait là aussi être une étape de plus dans une évolution qui, je pense, rassemble l'engouement de la plupart des utilisateurs, parce qu'il y a évidemment que des avantages sur le plan de la réparabilité et sur le plan de la lutte contre le réchauffement climatique quelque part. Il y a une investigation de la part de l'Union européenne sur Teams qui aurait été pas mal favorisé au détriment de Slack. C'est Slack qui avait initié les premières plaintes. Et évidemment, Teams s'est beaucoup beaucoup installé. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais en quelques années avec la pandémie, Teams s'est installé absolument partout. Il y a encore beaucoup de Slack qui existe, mais qui a beaucoup été concurrencé par Teams. Et force est de constater que peut-être la manière dont Microsoft l'a mis en avant et mis à disposition via Office est de nature à soulever l'attention des régulateurs. Donc on voit que c'est le cas. Et puis, pour terminer les sujets, les grands sujets de régulation, il y a la FTC aux États-Unis qui est en train de finaliser une plainte à l'égard d'Amazon. Alors évidemment, c'est pas la première fois qu'on évoque ce type de sujet et ça s'est pas concrétisé jusque-là, mais peut-être que là, ils ont plus à risquer que les autres fois. Il pourrait être question quelque part d'un démantèlement d'Amazon sur certains de ses, sur certaines de ses activités. Évidemment, c'est beaucoup trop tôt pour analyser concrètement si ça va arriver et si ça devait arriver, quelles en seraient les conséquences. Mais enfin bon, il y a décidément le régulateur qui ne chôme pas en cet été 2023 à l'image de ce qu'il est ces derniers mois. Je sais pas, Nicolas, s'il y a un de ces sujets qui t'intéresse et qui a retenu ton attention, sur lequel tu voulais compléter.
Ouais, Microsoft Teams, qui est un logiciel que je déteste.
Donc tu te réjouis qu'ils se prennent des
enquêtes. Non, je dirais pas que je me réjouis. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi le gros coup avec le Covid de s'implémenter partout assez rapidement. Et c'est dû en partie au fait que bah, y a beaucoup d'entreprises qui utilisent Outlook en adresse mail, qui utilisent Word, Excel, qui ont des comptes Office préchargés sur tous les ordinateurs de leurs employés. Et c'était un coup de génie finalement de copier Slack avec un logiciel qui était intégré en tant que suite justement. Donc il s'installait automatiquement sur tous les ordinateurs. Mais moi, je trouve, j'ai jamais aimé la manière dont le logiciel fonctionnait. Je trouve que c'est une usine à bugs et à ralentissement pour les ordinateurs. Et je trouve ça bien qu'on se penche sur ce sujet. Non pas parce que Teams est un mauvais logiciel, ça c'est très subjectif, mais parce que, en effet, ils ont clairement utilisé leur position et la force de Windows et de Microsoft Office pour concurrencer Slack. Donc c'est très intéressant de voir ce qui va arriver en Europe et ailleurs à partir de cette enquête.
Et pourtant, ils le savent, Microsoft, que c'est pas bien de favoriser l'utilisation d'un
justement, c'est pour ça que j'ai sauté sur ce sujet. C'est que, Microsoft, ils ont été condamnés pour Internet Explorer, ils ont été condamnés pour plein de choses. Mais pourtant, ils peuvent pas s'empêcher, à chaque fois qu'il y a une opportunité de se refaire des petites exclusivités comme ça. On l'a vu avec Bing et ChatGPT en début d'année. C'était réservé à Microsoft Edge. Ils ont 1000 logiciels sur Windows préchargés. Enfin, il y a plein de petits coups comme ça qui, normalement, ne devraient pas passer les autorités anticoncurrentielles, mais que Microsoft refait et on dirait qu'ils arriveront jamais à s'enlacer.
J'imagine les dirigeants, oh, ça va passer, t'inquiète.
Ça va passer. Bon, ils disent sûrement que les enquêtes vont prendre du temps et ils ont raison, la preuve, mais bon.
Effectivement. Ça,
en tout cas, on le voit.
Je vais terminer avec trois petits sujets qui quand même me tiennent à cœur pour être partagés sur cet épisode. Là encore, sens-toi libre de réagir sur tout ou partie, Nicolas. Il y a Vanmoof qui est une marque de vélo électrique qui est très appréciée, très qualitative, qui a déposé le bilan. Ça a eu lieu là ces derniers jours. Je ne sais plus quand exactement ça a été prononcé. On avait vu des premiers signes un peu inquiétants du site qui ne répondait plus très bien et il y avait les vélos qui étaient plus achetables. Bref, un peu problème. Et ce qui pose problème fondamentalement, c'est pas tant qu'une entreprise fasse faillite, mais c'est que les vélos Vanmoof ont besoin d'une application et surtout des services en ligne pour fonctionner. Et donc Vanmoof n'étant plus, j'espère que je le prononce bien d'ailleurs, tu me corrigeras si je le prononce mal, mais les services...
Je crois que c'est bon, je ne suis pas un expert.
Tu valides, le Moof, on va le dire comme ça en tout cas.
Peu importe, mais c'est bon.
mais en tout cas, plus de disponibilité. Alors il y a Cowboy qui est un concurrent quelque part, qui est une entreprise, je crois à l'origine française, mais qui est maintenant installée en Belgique, qui a un petit peu le même état d'esprit et qui a une même philosophie avec ses vélos électriques, qui a d'ailleurs fourni une application mobile un peu en catastrophe pour permettre aux utilisateurs, aux propriétaires de vélos Vanmoof de continuer à les utiliser, même si c'est pas l'application officielle et même si elle propose pas évidemment autant de fonctionnalités. En tout cas, ça a débloqué le sujet. Ça pose quand même deux questions. Ça pose question d'une part de la responsabilité des entreprises qui mettent à disposition des produits qui dépendent de leurs services en ligne, de leurs serveurs quelque part, parce que s'ils disparaissent du jour au lendemain, bah ça pose problème. Et puis globalement, ça pose aussi question sur la santé d'un marché qui, moi, me semblait assez florissant et qui, force est de constater, n'est pas si évident que ça. C'est celui des vélos électriques et des vélos peut-être même globalement connectés, ce qui est pas forcément réjouissant. Moi, je m'attendais plutôt à ce que ce soit la voiture qui fasse partie des trucs qui sont moins source de hype. Je sais pas, Nicolas, si tu utilises toi un vélo électrique au quotidien.
Ouais, moi je suis en vélo électrique, mais c'est très intéressant du coup le choix que j'ai fait. J'en suis content quelques années après. On m'avait recommandé à l'époque, c'est Julien Cadeau que tu connais peut-être, qui travaille avec moi sur Numérama et qui teste beaucoup de vélos électriques. Il m'avait dit d'éviter les marques qui se veulent des marques de vélos connectés, parce que souvent elles utilisent des pièces un petit peu différentes, elles enferment dans leurs écosystèmes, et le problème d'un vélo, c'est qu'un vélo, bah le pneu ça peut crever, un vélo ça peut avoir plein de problèmes très classiques, et qu'en fait les mécaniciens, les gens qui réparent les vélos, souvent ils n'ont pas les pièces nécessaires pour réparer ces vélos connectés qui sont vus comme des produits tech qui ressemblent à des vélos. Donc moi j'étais allé vers la marque Moustache qui fait des vélos très classiques et qui fait de super vélos électriques, et quand je vois ce qui arrive à Vanmoof aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi on m'avait recommandé ça. Parce qu'en effet, on voit très bien les limites de ce modèle-là. D'un côté, c'est dommage parce qu'ils faisaient des super produits qui étaient hyper intégrés avec une bonne application. En tant que geek, évidemment, ça me faisait plus rêver que le vélo que j'ai acheté. Mais de l'autre, en fait, ils sont dépendants de ce succès-là. Ils sont dépendants que uniquement de ces produits. Et comme leur pari est ultra ambitieux et ultra haut de gamme, et le moindre échec peut être fatal. Et ils n'ont pas la possibilité de gagner de l'argent ailleurs. Et on voit bien que c'est ce qui est en train de se passer. Et je trouve ça super dommage.
Moi, j'utilise un Cowboy 3 et c'est vrai que ça me fait un peu flipper, parce que même si c'est pas autant dépendant des services en ligne, c'est quand même hyper dépendant du smartphone.
Après, je crois, pour avoir parlé à un ami qui possède un Vanmoof, que contrairement à ce qu'on peut dire, en cas de mort de l'application, c'est que la configuration du vélo qui va être tuée. Mais le vélo, il est toujours désactivable. Okay. Enfin, il va continuer de fonctionner. Juste, on pourra peut-être pas le mettre à jour. On pourra pas changer les réglages. Et c'est là où il va falloir une application locale pour avoir la clé de déverrouillage et y accéder. Mais le vélo, enfin, ça a été un petit peu dramatisé cette histoire. Le vélo va pas mourir si l'application meurt. Mais dans tous les cas, on passerait d'un vélo connecté avec plein de services vendus par Vanmoof qui sont hyper ambitieux, un vélo un peu plus normal avec un écran.
Bon, c'est un peu rassurant malgré tout. Cowboy qui est pas dans une santé financière encore suffisamment bonne, elle est pas dans la situation de Vanmoof, mais ils sont pas encore rentables. Hein. Il est question qu'ils le soient dans les trimestres à venir, mais ils augmentent d'ailleurs leur prix à cet effet, je pense. Je voulais parler aussi, deuxième sujet qui me tenait à cœur, c'est les AirTags, parce que ça y est, il y a des mises à jour qui arrivent sur Android, mais y compris sur les anciennes versions d'Android, avec pas mal de rétroactivité pour intégrer nativement le fait de détecter si un AirTag vous suit à votre insu. Donc ça, je trouve ça très très cool. Et la raison pour laquelle je voulais le partager, c'est que je voulais relayer quelque chose qui n'est pas, à mon avis, assez souvent relayé. C'est quoi faire quand on est suivi par un AirTag, que ce soit votre iPhone ou désormais un smartphone Android qui vous le détecte. Le réflexe que beaucoup de personnes auraient, ce serait d'enlever la pile. Tu sais, ils arrivent chez eux, ils enlèvent la pile. Ouais. Et surtout pas, ne faites surtout pas ça. Ça peut paraître contre-intuitif, mais surtout laissez le AirTag fonctionner et barrez-vous de chez vous et idéalement allez porter plainte, parce que les autorités ont quoi qu'on puisse en penser des process à mettre en œuvre dans ce genre de situation. Et si jamais vous enlevez la pile chez vous, ça associe votre domicile comme étant la dernière position connue du AirTag. Donc n'imaginez pas que la personne ne saura plus où était le AirTag. Au contraire, c'est un petit peu gravé dans l'historique de l'utilisation du AirTag le fait que la dernière position ce sera chez vous. Donc n'enlevez pas la pile, ou en tout cas, n'enlevez pas la pile chez vous et allez plutôt voir les autorités. C'était un petit peu le message de prévention de cet été. Et puis, alors, dernier sujet qui me tenait à cœur, et probablement que tu l'as vu passer, Nicolas, et que tu auras matière à un tout petit peu réagir sur ce sujet, parce que tu me disais juste avant l'enregistrement que tu avais pu participer au rendez-vous tech à l'occasion de la sortie, enfin, de l'annonce plutôt du Vision Pro d'Apple, c'est que Netflix n'aurait pas, a priori, l'intention de créer une application dédiée au Vision Pro. Alors, c'est doublement important parce que quand on pense Vision Pro maintenant, donc le casque de réalité mixte par Apple, on pense divertissement. Moi, j'ai encore en tête ces images de Disney qui montraient à quel point on allait pouvoir profiter des vidéos divertissement sur un casque connecté. Ça me faisait rêver. Mais si Netflix le fait pas, déjà, ça montre que c'est peut-être pas une voie qui va être si évidente que ça. Et ça montrerait aussi que le Vision Pro est peut-être pas promis à un avenir commercial complètement dingue. On peut aussi se dire que c'est normal parce que c'est un produit pro, parce que c'est le premier, parce qu'ils n'ont pas l'ambition de diffuser une base d'utilisateurs dès le tout premier modèle trop importante non plus, mais qui veulent confirmer des usages. Mais ça continue quand même à interroger sur à quel point les développeurs vont être intéressés à fournir des applications sur le Vision Pro, alors que il y aura peut-être pas beaucoup d'utilisateurs, quoi. Bon, ça m'interpelle un petit peu, et c'est pas pour me rassurer. Évidemment, on a encore le temps de voir les choses arriver d'ici à ce que le Vision Pro sorte l'année prochaine et encore plus tard chez nous en Europe. Je sais pas si ça te laisse songeur, toi aussi.
Même chose que toi, je suis songeur sur leur capacité à convaincre les gros développeurs de venir. On sait déjà qu'il y a plein de développeurs intéressés, mais il va falloir que les plus grosses applications de l'iPhone, on parlait de X en début d'émission, il faut qu'un X soit disponible sur Vision Pro, non pas juste avec la version iPhone, quoi. C'est pas suffisant. Il faut qu'on puisse vraiment parcourir l'application, qu'il y ait, pourquoi pas, la possibilité de projeter des vidéos dans d'autres fenêtres. Il faut que les développeurs jouent le jeu, sinon le Vision Pro est condamné à être juste un casque de réalité virtuelle anecdotique qu'on utilise de temps en temps. Netflix, après, voilà, là où je pense qu'il faut se méfier de cette information, c'est que Netflix est historiquement un concurrent d'Apple, qu'ils ne s'apprécient pas, ils se sont toujours disputés sur la taxe des 30%, que Netflix n'a pas très bien apprécié le lancement d'Apple TV+, et que Netflix refuse de lancer une application Mac depuis des années. Du coup, si tu as un Mac et que tu pars en vacances, tu ne peux pas télécharger de films sur ton Mac, parce qu'ils ne veulent pas lancer d'appli sur Mac. Donc, enfin, est-ce que si on nous avait dit que Netflix allait se lancer sur le Vision Pro le premier jour, c'est pas là où il aurait fallu être surpris?
C'est vrai.
Moi, je pense sincèrement que c'est ça qui m'aurait étonné, c'est qu'au final Netflix veut embêter Apple, c'est leur passion d'essayer de les parasiter. Donc voilà, ils vont le faire et ça me paraît tout à fait logique. Maintenant, il va falloir surveiller les autres développeurs qui ont moins de raisons de vouloir embêter Apple.
Ouais, effectivement. Puis ça aurait été une surprise encore plus grande, effectivement, d'avoir Netflix qui annoncerait développer un truc de fou sur le Vision Pro, il est sûr. Bon, merci beaucoup, Nicolas. On n'a pas pu traiter toutes les actus qu'on avait collectées, mais je pense qu'on a quand même mis à jour les auditeurs du Rendez-vous Tech sur les incontournables.
Il y
en avait plus que je ne le pensais.
Pour un mois de juillet, ouais.
La semaine dernière, j'étais encore en Bretagne. Je faisais un petit peu ma veille, tu sais, au quotidien. Et je me disais, je ne sais pas si on va avoir grand-chose à se mettre sous la dent. Et au final, quand tu creuses, il y a quand même toujours des choses qui se passent. Ce qui montre à quel point la tech est un secteur qui ne s'arrête jamais. Merci infiniment, Nicolas, d'avoir pu participer avec moi à cet enregistrement d'épisode un peu spécial. J'espère que les auditeurs n'auront pas été trop dépaysés. Mais rassurez-vous, vous allez retrouver Patrick dans quelques jours, dans les prochains épisodes du Rendez-vous Tech. En attendant, évidemment, vous allez sur frenchspin.fr et vous allez voir tous les autres podcasts qui ont été diffusés ou qui vont sortir, qui sont faits par Patrick. Il y a d'ailleurs, je crois, le rendez-vous jeu qui va être assuré par un autre animateur et de l'été, ça va être Kassim. Donc vous aurez Kassim Ketfi, donc vous aurez la chance d'écouter Kassim pour le rendez-vous jeu pour un épisode spécial. Et en attendant, Nicolas, peut-être qu'il va falloir rappeler à nos auditeurs, attention, il va falloir s'habituer, non pas quel est le compte Twitter qu'il faut suivre pour les retrouver, mais quel est le compte X? Alors, Nicolas, quel est ton X? Je ne sais pas si c'est comme ça un compte.
Alors,
où est-ce qu'on peut te retrouver, généralement?
Mon compte de XO, à défaut d'être un tuto, c'est Lelouch Nico, et après, évidemment, sur le compte de Numérama, où on essaye de sortir un maximum d'articles sur l'actualité des nouvelles technologies tous les jours.
Numérama.com, et c'est vrai qu'il y a tous les articles tech de Numérama qui permettent quand même d'avoir une veille qui, je trouve, est assez exhaustive sur ce qui se passe dans la tech et en français, et donc ça c'est toujours cool à souligner parce que les médias sont souvent anglais quand on veut la qualité sur la tech. Et là, c'est en français, c'est plutôt cool. Merci infiniment d'avoir joué le jeu à mes côtés. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur Tech Café, qui est un autre podcast sur l'actu tech, où on aborde parfois des choses de manière un petit peu plus, j'allais dire, experte avec mon compère Guillaume Poggiaspala. On est amené parfois à vous expliquer comment fonctionnent les modèles d'intelligence artificielle, comment fonctionnent les processeurs qui font tourner vos machines. Et puis, on parle de tous ces enjeux de régulation. Vous avez vu que ça me tenait aussi un petit peu à cœur. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et puis, ben, rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode du Rendez-vous Tech. Ciao à toutes et à tous.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.